Guillaume Dard, bonjour.
Bonjour.
Président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, Association française de gestion financière. Jérôme Dédéant, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Associé de tout sur mesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Et Xavier Timbaud, bonjour.
Bonjour.
Directeur principal de l'OFCE. La politique sur les carburants est-elle bonne, Guillaume Dard? Elle n'est pas terminée, elle baisse d'un cran. Il y a déjà eu des pénuries là ces derniers jours. Tout le monde faisait le plein pour eux.
Avant les 20 vous en avez longuement parlé dans l'émission et ça a eu une vertu importante, c'est que ça a permis à l'inflation française d'être pas la plus basse, mais enfin une des plus basses de la zone euro. Et comme on est dans un pays où on a une sensibilité très rapide au prix, ça a évité effectivement d'enflammer, même si dans certains endroits ça s'est produit, d'enflammer la boucle prix-salaire. Et le fait d'avoir moins d'inflation, c'est un avantage. Et comme l'énergie contribue de façon significative, c'était une bonne chose. Alors après, il y a tous les défauts qu'on connaît, c'est-à-dire que ça n'est pas distribué forcément au bon endroit, mais enfin, pour aller vite...
C'était
le meilleur moyen de le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'il y a le sujet. Est-ce que la ristourne, c'était bien? Oui, c'était plutôt bien. C'était plutôt bien parce que, au fond, on ne sait jamais que rendre une partie de l'impôt. Hein.
On peut le voir comme ça.
Personne ne perd d'argent. L'État n'a pas perdu d'argent. Il a eu un manque à gagner. Mais
oui, oui.
Enfin, on sait, je ne sais plus quelle est la proportion dans un litre d'essence des impôts.
60 centimes sur 1 euro. À peu près.
Bon, ok, donc 60%. Donc, voilà. Disons que l'État en a rendu un peu. Total a fait un effort par ailleurs. D'où le succès des
500 millions d'euros.
Bon, alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir un peu de chance pour le gouvernement, parce que la sensibilité soudaine à la variation du prix, personne ne peut savoir comment ça se passe. Hein. C'était novembre 18, qu'on a mis une taxe de plus, ça a déclenché les gilets jaunes. Là, le gouvernement, il a une petite chance d'avoir beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que le prix à la pompe, il dépend quand même du prix du pétrole, et le prix du pétrole, il dépend intrinsèquement du prix du pétrole, et puis du dollar. Et qu'est-ce qui vient de se passer sur le dollar? Le dollar est passé en une quinzaine de jours de 0,96 à 1,0450 à peu près
face à l'euro
aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire que c'est 8% de baisse. Et le pétrole lui-même, il a perdu un peu moins, mais enfin, il a perdu 4-5%. Donc, avec un peu de chance, si les prix sont répercutés rapidement, parce que c'est difficile de savoir quelle est la rapidité entre le moment où le prix du pétrole bouge à la hausse comme à la baisse et le prix à la pompe. Mais enfin, avec un peu de chance, ça se verra pas trop.
Le calendrier peut être bon, on verra ça. Alors, en tout cas, la conséquence, c'est que ce matin, dans plein d'endroits en France, on va payer son litre de gazole un peu plus de 2 euros parce qu'il était un peu au-delà en moyenne de 1,80. Un avis sur ce moment, la suite avec l'histoire des gros rouleurs qui va être un peu compliquée à mettre en place?
On peut espérer, comme le dit Guillaume, que le market timing va jouer en faveur de l'État, puisqu'en fait, cette mesure, elle était clairement liée au fait qu'il voulait éviter que les gens reviennent sur les ronds-points, hein, on va le dire.
Ah, mais clairement. Si on est passé à 30 centimes, c'était pour avoir le vote des LR à l'Assemblée l'été dernier.
Elle a eu elle a eu un mérite qui est que, elle a quand même arrosé. Alors, elle a arrosé large, mais elle a notamment arrosé ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de prendre leur véhicule pour aller travailler. Voilà. Et donc, ça a réglé pas mal de situations. C'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'angle qu'adopte désormais le gouvernement d'une aide ciblée, de remplacer cette ristourne universelle à la pompe par une aide ciblée sur ce qu'ils appellent les gros bosseurs, hein, pas les gros rouleurs,
Gabriel Attal a remplacé rouleurs par gros bosseurs.
Exactement, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler.
Vous savez pourquoi l'expression a été utilisée? Parce qu'en fait, on va en rester au niveau de revenu et le fait d'avoir une carte grise. Hein. On va pas regarder l'adresse de l'entreprise, le nombre de kilomètres parcourus. Donc le gros bosseur, c'est celui qui a une voiture et qui bosse.
Voilà. Et donc, la substitution de cette ristourne universelle qui avait vraiment... elle était là pour essayer de calmer ou éviter une nouvelle explosion sociale, à part quelque chose de plus ciblé, me semble plus raisonnable. Ça ne règle pas le problème au fond, qui est, est-ce qu'on donne à chaque Français les moyens d'avoir un reste à dépenser une fois qu'il a payé ses frais de transport pour aller travailler, quand il est dans une zone où, entre lui, son lieu de domicile et son travail, il y a de la distance qui ne peut être couverte qu'avec du gazole, c'est un sujet sur lequel il va falloir se pencher.
Il y a le problème de transition, fin du mois.
Ah bah bien sûr, mais moi je
vous demande, et évidemment pour l'effet prix qui permet de pousser à la décarbonation, évidemment on le met de côté.
C'est ça. Alors moi je vous
trouve
quand même
la transition climatique est quand même un sujet majeur et ça allait dans le bon sens, mais dans le contexte français, je comprends que le gouvernement n'avait pas le choix.
Alors peut-être que vous êtes plus réaliste que moi, parce que moi, je vous trouve très, très clément à l'égard de tout ça. J'ai quand même le sentiment qu'on vient de dépenser 8 milliards, Xavier Timbaud, en 9 mois, pour faire économiser en moyenne 120 euros par automobiliste sur 9 mois, et pour 100% des automobilistes, y compris ceux qui pouvaient payer un plat à 3 chiffres. Moi, j'ai dit ce matin que je considérais le bilan comme catastrophique, objectivement. Après, on peut considérer que la France, c'est la France, que politiquement, il n'y avait pas d'autre solution.
Là, vous êtes là pour faire des éditos, mais enfin, je vous ai entendu encore hier que c'était bien pour l'inflation. Donc,
Ah, mais alors après, effectivement, mais je pense que le bouclier tarifaire a plus d'effet sur l'inflation que la restante sur les carburants. Enfin, je ne sais pas.
Oui, Xavier. Le premier point, c'est qu'il s'agit de l'essence, alors que la crise énergétique, elle est quand même principalement sur le gaz.
Oui.
Donc ça.
Oui. Et 8 milliards sur une centaine. Hein. Voilà. Plus d'une centaine.
Oui.
Total.
Alors,
après, ces 8 milliards, il y a un petit goût de gueule de bois, maintenant qu'on se réveille et qu'on se rend compte que ça a coûté 8 milliards. Parce qu'on se dit, si on avait décidé de mettre 8 milliards sur une subvention aux voitures électriques, on aurait pu subventionner 1 million de voitures électriques. Avec une prime à 8 000 euros, Nicolas. Donc 1 million de voitures électriques. C'est pas rien, 8 milliards. Enfin, là, on est un peu à une époque où on a l'impression que les milliards valsent et tombent du ciel et n'ont plus de valeur. Mais enfin, si, quand même, les ronds-points nous ont coûté cher à faire en investissement public. Ils nous coûtent beaucoup, beaucoup plus cher en termes de sécurité et de limitation des manifestations. Cet argent, il aurait pu être utilisé autrement, avec un impact tout à fait significatif pour les Français. Et
oui, mais vous n'avez pas l'impact immédiat, c'est beaucoup plus compliqué à capter pour l'ensemble de l'opinion qu'une ristourne de 20
centimes. Le prix d'électricité lui-même monte.
Ouais, mais enfin, ça fait quand même très cher.
Moi, je suis un peu de votre avis.
Et on a presque envie de se dire deux choses. C'est d'abord, on aurait pu faire autrement. Et ensuite, en fait, aujourd'hui, quand on dit on va cibler pour réduire la facture, est-ce que c'est vraiment ça qui est intéressant? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, par exemple, pour ces fameux gros rouleurs qui travaillent, les aider à faire la transition vers l'électrique? Et à ce moment-là, on ne parle plus de cette histoire d'essence. Les montants qui sont sur la table, enfin, je veux dire, subventionner 1 million de voitures électriques, ça permet de régler le problème de beaucoup de professionnels.
Bien sûr, le montant 2023 pour le gros bosseur, on nous parle d'un milliard 6. Là, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour aider chaque automobiliste qui est dans partie la plus basse des revenus à
changer de voiture. Et comme on a un problème d'énergie, globalement, de coût de l'énergie, c'est que le coût de l'énergie, le sujet n'est pas réglé. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, le gaz reviendra à flot, mais ça n'est pas certain. On a quand même une montée très forte du prix de l'énergie. D'ailleurs, actuellement, c'est le prix de l'électricité qui est au plus haut.
On a dépensé plus de 100 milliards pour accompagner ou essayer de modérer cette inflation générale des coûts de l'énergie. C'est pas seulement les 8 milliards de la ristourne.
100 milliards, il y a beaucoup quand même.
Moi, j'ai une 2021, 2022, 2023, en fait.
C'est les 3 années. Voilà, et là, donc, une année qui n'est pas encore commencée.
C'est un chiffre qui a été cité par Bruno Le Maire.
D'accord, Xavier, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et là, on dépasse le manque à gagner qu'évoquait Guillaume. On est quand même dans une aggravation de déficit public parce que ça se retrouve à la fin dans la dette française. Donc, c'est reculer pour mieux sauter. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Lang qui consiste à dire que pour des masses d'argent pareilles, une mesure court terme, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres ou voler des billets, alors qu'on aurait pu l'investir sur quelque chose de plus lourd. Alors, c'est peut-être, on peut discuter de l'efficacité du véhicule électrique par rapport au véhicule basse consommation, blabla. On peut aussi discuter de savoir si à certains endroits, il ne faudrait pas densifier notre réseau de transport régional par train, ferroviaire, parce qu'il y a plein d'endroits où les bassins d'emploi pourraient être mieux desservis par des infrastructures évidemment moins consommatrices de carbone. Tous ces enjeux-là, finalement, on a un petit frustration a posteriori d'un niveau d'analyse de la situation et de distribution de ces montants colossaux par le gouvernement.
Mais ce que disait Guillaume Dard est absolument essentiel, finalement, et c'est d'ailleurs un argument aujourd'hui qui a été repris, d'ailleurs, je crois, par Gabriel Attal hier lors des BFM Awards. Cette dette et ce déficit absolument astronomique, est-ce que ce n'est pas le meilleur choix qu'on a fait pour éviter l'inflation à 10%, éviter la boucle
de salaire. Moi, j'ai pas dit que la dette et le déficit astronomique étaient le meilleur.
Mais c'est la conséquence qui fait qu'on n'a pas eu une hausse de 12% du SMIC.
Enfin, tout est dans tout dans l'économie. Je vais pas, Xavier, c'est tout ça beaucoup mieux que nous. Mais si vous aviez immédiatement une flambée des prix, si vous anticipiez les hausses de salaire des fonctionnaires, je suis pas sûr que ça va vous coûter pas plus cher.
Bon, il y a une nouvelle aide qui voit le jour mi-décembre, Xavier Timbaud. Un mot sur les 10 à 45 euros d'aide pour faire réparer ces vieux trucs et éviter de les remplacer.
Alors, on pourrait vouloir mettre ça dans le même paquet.
Voilà, on pourrait dire que ça continue.
Mais en fait, non. Non, parce que cette aide-là, elle est quand même beaucoup plus structurelle. On est plus dans quelque chose sur le long terme. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'on va inciter et permettre aux gens de réparer plutôt que de remplacer et de jeter. Ensuite, on va aussi créer un secteur économique. C'est-à-dire, on sait que la réparation, en fait, un des obstacles, c'est que la valeur ajoutée qui est créée par la réparation n'est pas suffisante. Les prix des produits neufs baissant très rapidement, la valeur ajoutée créée par la réparation n'est pas suffisante pour qu'il y ait une économie de la réparation. Et là, les montants qui sont sur la table sont des montants qui correspondent à des heures de travail, en fait.
C'est ça.
Voilà, qui sont subventionnés et qui vont permettre de rentabiliser ce secteur économique de la réparation, qui est aussi un secteur dans lequel on a beaucoup d'économie sociale et solidaire, on a beaucoup de réinsertion.
Ça s'entend.
C'est un secteur qui est important. Mmh. Et ce genre d'aide n'est pas une aide... Oui, en réaction à une conjoncture pour éviter un dérapage inflationniste, c'est une aide qui peut avoir un impact assez structurel en créant quelques centaines de milliers d'emplois dans un secteur qui peut naître et prospérer grâce à ça, et puis changer un peu quelques habitudes. Moi, je ne trouve pas ça une mauvaise approche, pour le coup, des aides publiques.
Les mauvaises langues diront que ça ressemble à des emplois aidés, presque, ce que vous décrivez, mais j'admets que les arguments s'entendent. C'est 10 euros pour une machine à café, 25 euros pour un lave-linge, 45 euros pour un ordinateur portable.
Et moi, je vais rajouter un angle qui va peut-être vous étonner, c'est qu'en fait, je pense que cette aide-là, dont je salue la valeur, hein, je pense qu'elle a une valeur, aujourd'hui, elle aurait été impossible il y a 10 ou 20 ans, parce que, finalement, elle est rendue possible par la désindustrialisation du pays. Je m'explique, il y a encore 10 ou 20 ans, on fabriquait des lave-linges en France. Il y avait un site, ça avait fini par concentrer, et il y avait un peu une humanité souffrante ouvrière qui luttait contre le conteneur chinois à cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ou quasiment plus le cas, et donc en subventionnant la réparation de l'électroménager, on ne met pas à mal plus une industrie qui s'est déjà barrée, en fait. Et donc, elle est rendue possible aujourd'hui politiquement par les enjeux de transition, les enjeux de recyclage, et le fait qu'on ne va pas entamer quelque chose qui est déjà détruit.
Et je passe après sur les salaires.
L'économie circulaire, c'est bien entendu une excellente idée. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il faut arriver à recycler, que c'est dans certains cas une gabegie de consommation de voir tous ces objets jetés. On sent bien qu'il y a du gâchis. Donc l'idée, elle est formidable. Deux, peut-être que ça peut redonner un peu de technique de travaux manuels en France et aider comme ça, quand Sylvain Ruby dit « je trouve plus personne », etc. Donc ça peut redonner du goût au travail. Ceci étant dit, les tentatives d'économie solidaire et sociale, il y a eu sûrement des succès, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que je ne sais plus le nom de l'entreprise qui faisait justement c'était plutôt dans les téléphones portables ou etc. qui avaient essayé de faire ça. C'est très difficile. Il y en a qui ont réussi, mais il y en a qui étaient des gros échecs.
C'est très très dur
de marcher parce que l'économie, elle est très serrée. On entend 10 euros pour une machine à café. Si vous voulez, si vous passez une demi-heure sur la machine à café, les 10 euros, ils sont déjà mangés. Hein. Donc, c'est sûrement une bonne idée, difficile à exécuter.
Oui, alors sauf que.
C'est pas la facture payée TTC par l'État, c'est une incitation.
Oui, ça vient contribuer. La facture sera plus élevée pour faire réparer sa machine. Mais le consommateur est-il prêt à la payer aujourd'hui?
Ce qu'on dit, la facture peut être forte.
Le comportement du consommateur.
C'est clé, ça.
Il y a un comportement, on va dire, de je peux prolonger la durée de vie de mon appareil parce que le service du dernier appareil à triple derviche tourneur à grand braquet avec la dernière innovation n'est pas tellement plus. Ne me donne pas plus satisfaction ou la satisfaction que je pourrais en retirer ne suffit pas à ce que je prenne un truc neuf. Typiquement, j'ai pas besoin d'une machine à café connectée. Vous voyez, je suis un gars assez simple. Hein, voilà. Et deuxièmement, il y a un enjeu.
On va pas dans les détails non plus.
Voilà. Et puis il y a un enjeu économique qui est qu'à la fin de la journée, le prix de la réparation est souvent moins élevé que le coût sur votre compte en banque du changement d'une machine qui ne vous apportera pas une satisfaction supérieure.
Donc je pense
que ça peut rencontrer un vrai succès. Voilà. Et en fait, ça peut être l'impulsion de dépenses qui permet d'être utile ou vertueuse sur le plan écologique et rencontrer un vrai succès en donnant vraiment cette impulsion initiale pour modifier nos comportements.
Est-ce que tu investiras dans un domaine comme ça? Est-ce que tu investiras dans une entreprise de ce type-là?
Je regarderai le modèle économique de façon claire.
C'est la vérité.
Mais là où je trouve que la façon d'attaquer le sujet par Xavier Timbaud est la bonne, c'est qu'autant on a dépensé des milliards pour subventionner le pétrole, là on dépense de l'argent pour éviter justement de subventionner le gâchis. Voilà. Les PME qui montent les salaires. Alors, l'étude est assez passionnante. Elle a été menée par Cercle Perspective. Cercle Perspective regroupe 17 cabinets d'expertise comptable. L'étude porte sur 433 600 fiches de paie d'entreprises de moins de 50 salariés. La hausse moyenne au premier semestre est de 3,1%. On se posait la question, Jérôme Dédion, avec Guillaume Dard, de savoir si justement boucle prix salaire, pas boucle prix salaire. Là, c'est pas des primes, hein. c'est du salaire.
C'est du salaire.
Ouais. C'est du salaire. Et donc, avec les hausses importantes qu'on a observées dans certains secteurs, par exemple, EDF, avec sa hausse très importante, qui tout mouillé, hein, et quasiment de 10%, est en train de sérieusement handicaper la branche à laquelle appartient EDF, car quand EDF prend une décision dans cette branche-là, c'est un peu là de la branche. Là, on voit que les TPE-PME aussi.
Voilà. Alors d'abord, je voudrais souligner, si vous le permettez, parce qu'il faut le faire de temps en temps, la qualité de la donnée. En fait, on a un réseau d'experts comptables à valeur ajoutée extrêmement dense en France. Il n'y a pas que l'électronisation du chiffre et de la paye. On les remplace pas par des machines. Ils ont aussi une valeur ajoutée grâce à la donnée et à l'analyse de la donnée qu'ils font. Et donc, la plupart des cabinets d'expertise comptable ont un pôle social et ils produisent des bulletins de paye et ils rendent service au pays en ayant des statistiques fiables à partir de ces données-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette analyse quantitative, hein, sur un très grand nombre de fiches de paye, concerne des TPE-PME. Et donc, on voit que...
On a rarement des chiffres, hein, les concernant.
Alors, moi, je peux vous dire ce que je constate sur le terrain auprès de tous les patrons de TPE-PME que je côtoie quotidiennement, puisque j'en vois pas mal avec mon équipe. La première chose, c'est que le patron, si son modèle économique le permet, n'est pas du tout opposé à des hausses de salaire qui stratifient des coûts fixes. Voilà, ça c'est quand même le patron français. Il souhaite mieux payer les gens et quand il a une marge qui se déploie et des capacités, il va raisonner en arbitrant où est-ce qu'il met les choses.
Etc. La CPME n'est pas très chaude sur le dividende salarié.
Mais j'en ai rien à foutre.
Ou éventuellement.
De la CPME. Mais je veux dire, c'est
on peut
discuter du caractère poujadiste ou non de la représentation des patrons de TPE-PME. Moi, je vous parle de ce que je rencontre sur le terrain. Les patrons ne sont pas tous des salopards qui disent tout pour ma gueule et rien pour mes salariés et je dis non à toute demande d'augmentation de salaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'ils veulent, c'est évidemment pouvoir le faire de façon ciblée sur les personnes qui contribuent le plus. Un collaborateur qui contribue le plus ou au-delà de vos attentes dans une entreprise, vous souhaitez l'augmenter, vous souhaitez accompagner sa carrière, etc. Sinon, vous n'êtes pas un entrepreneur de bonne qualité et votre boîte va mourir. Vous serez la limite à votre propre boîte. Donc ça, c'est vrai. Ce qui est clair, c'est que c'est largement inférieur à l'inflation.
Oui.
Et ce qu'on constate à côté de ça, c'est que tous les enjeux de rémunération variable se développent de façon considérable. Évidemment, les enjeux d'intéressement dans les TPE-PME, vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille pour leur développement, et on constate que l'équipement se poursuit. Il se poursuit à un rythme qui s'accélère grâce à toutes les mesures qu'on a mises dans des véhicules législatifs ces dernières années, la dernière en vigueur étant l'exécution post-loi PAC de la simplification de la mise en place de l'intéressement. Ces mécanismes se développent. Pourquoi ? Parce qu'une saine gestion dans le contexte actuel qui est très incertain, on a cette flambée d'inflation, on a abondamment commenté le fait qu'elle était peut-être temporaire, mais pas si temporaire que ça, qu'il y avait quand même de la fin d'embouteillage post-Covid sur l'approvisionnement, etc. Il est clair que la saine gestion consiste à partager les années exceptionnelles que vous pouvez faire en ce moment, compte tenu de la reprise extraordinaire qu'on a eue, sans endommager l'avenir, c'est-à-dire sans stratifier des coûts fixes, un semi-remorque de coûts fixes que vous vous prendrez dans la descente le jour où ça décélère. Et donc, c'est pour ça qu'on a des augmentations de salaire, pour toutes ces raisons croisées, hein, de comportement des
patrons.
Mais qui restent inférieurs à l'inflation. Et c'est pour ça qu'on a le développement de dispositifs plutôt variables.
Pour aller dans le même
50 secondes avant de marquer une pause.
Oui, pour aller dans le même sens, bien entendu, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qui est salaire et intéressement, enfin, que ça soit une formule structurelle ou que ça soit des rémunérations variables complémentaires, parce que tout chef d'entreprise doit gérer son équilibre, non pas juste sur l'année N, mais avoir un peu de perspective à long terme. Et comme il y a cet inconnu sur la façon dont l'économie va se développer dans les années à venir, enfin en tout cas en 2023, où tout le monde annonce que ça va ralentir, vous ne pouvez pas charger la barque. Ceci étant dit, ce qui est en train de se passer sur les augmentations de salaire, et je le vois en interrogeant des grands chefs d'entreprise, c'est qu'en fait, ces augmentations de salaire sont concentrées, si j'ose dire, sur les tranches inférieures de salaire.
Elles sont supérieures en bas par rapport à en haut.
Oui. Très supérieures en bas qu'en haut. C'est-à-dire que beaucoup de grandes entreprises disent augmentation de salaire jusqu'à X milliers d'euros et au-dessus, rien, ça reste à l'individuel.
Mais on a eu une étude tout récemment qui a constaté que d'ailleurs des non-qualifiés dans des métiers en tension avaient des augmentations moyennes nettement supérieures à la moyenne. Enfin, des augmentations nettement supérieures à la moyenne.
Donc ça va resserrer
Et
ça posera des problèmes de second tour, puisque en fait, il n'y aura pas des augmentations comme ça pour tout le monde.
On marque une pause. Dans un instant, Xavier Tabou, si vous voulez rajouter un mot. Et puis, on regardera justement ce qui se passe après les salaires sur l'emploi, la dynamique de l'emploi. Pour l'instant, ne faiblit pas. À tout de suite.